Alors, vous m'excuserez pour la voix que j'ai aujourd'hui. En petit préambule, je voudrais juste dire que j'ai personnellement peu l'habitude de théoriser ou de comme ça frontalement notre pratique. Philippe est bien meilleur théoricien que moi. Pour introduire un peu cette intervention, je vais juste faire une petite présentation de la façon dont on a commencé à travailler, à collaborer, pour quelles raisons et selon quels enjeux et quelles modalités un peu de travail au fil des créations qu'on a pu faire ensemble. Nous, de façon générale, on va parler de la question de l'écriture numérique. Qu'est-ce que ça signifie d'écrire avec des outils numériques et qu'est-ce que ça pourrait être écrire une poésie interactive, générative et qui combine à la fois le verbe, le texte, le son, l'espace, le corps. Donc c'est un petit peu beaucoup. Pour commencer, nous venons tous les deux de pratiques d'écriture classique. Donc Philippe parlera un petit peu plus personnellement lui de son parcours et je parlerai un tout petit peu du mien. Personnellement, j'ai fait des études classiques comme beaucoup de gens peut-être ici et j'ai eu une double impossibilité à un moment d'écrire. J'écrivais des choses très banales, on va dire, suite à deux chocs, on va dire. Un, la découverte des avant-gardes et des écritures contemporaines, et de l'autre côté une pratique ou une immersion dans une époque actuelle où les outils numériques liés surtout à l'internet et au réseau deviennent assez importants. Et donc, d'un seul coup, j'ai pu écrire et je me suis mis à écrire avec des choses complètement différentes qui sont, par exemple, des magazines féminins, des sites de rencontres, des publicités, des types de discours complètement hétérogènes à la littérature. Et j'ai eu aussi, surtout, envie d'écrire autrement et d'écrire dans d'autres espaces, d'autres lieux et selon d'autres modalités que la page ou la perspective du livre ou d'une œuvre littéraire classique. Et ce désir à rencontrer Philippe et une pratique qu'on avait un petit peu informelle tous les deux, de d'abord faire des créations sonores improvisées. Donc on a démarré par un travail à la fois de son et de texte, mais complètement déconstruit par un travail sonore. Et peu à peu, donc, à partir de ce travail sonore et de cette liaison entre moi d'un côté qui était plus dans le texte et la voix et Philippe un retraitement informatique du son, on a peu à peu construit différents dispositifs de performance et d'écriture numérique. Et toujours la question au fil de ces des diverses créations dont je vais un petit peu vous parler, c'était vraiment cette question d'écrire d'une autre manière, mais pas d'écrire d'une autre manière au sens du fond, de créer peut-être une poésie inouïe ou ces questions-là de style, mais écrire selon d'autres modalités pour créer d'autres types de combinaisons entre des choses qui étaient déliées, donc à savoir le son, l'image, l'espace, et le numérique était pour nous la technologie la plus appropriée pour pouvoir faire cette synthèse entre des médiums différents. Parce que au fil de nos créations, on a parcouru un peu des étapes historiques, au sens où au début on avait plus un travail presque audiovisuel, au sens où on combinait d'un côté le son avec de l'image, avec du texte, sans qu'il y ait de liaison d'interactivité entre les deux. On est parti d'un travail sonore auquel on a rajouté une vidéo, et la seule interaction un peu artificielle qu'il y avait, c'était que j'étais captée en vidéo à l'intérieur de l'image et incrustée dedans. Donc ce dispositif, c'était une performance qui s'appelait Bode Code Project, qui était la première, et qui essayait d'interroger qu'est-ce que ça voulait dire que d'être capté dans un discours, capté dans un dispositif technologique, capté par par des outils qui produisaient, on pourrait dire, une forme d'enfermement du corps ou cadastre du corps qui était en l'occurrence le mien, un corps de femme, et tout le travail du texte était lié au chant, au discours des magazines féminins, de la chirurgie esthétique, etc. Donc on créait un dispositif à la fois réflexif, une forme de métaphore incarnée, je pense que Philippe parlera peut-être de ces questions-là, de l'enfermement dans des types de discours, et à la fois on en jouait, et c'était pas une dénonciation frontale, féministe, de dire oh là là, on est complètement parlé, on est complètement inscrit dans ces discours qui nous définissent, on est enfermé dedans. Au contraire, on essaie de l'utiliser pour en faire, pour en jouer et pour créer d'autres types de vitalité, pour réinsuffler de la vie dans ces discours et dans des dispositifs techniques très, on va dire, contraignants. Donc on jouait sur une dissymétrie entre moi qui était complètement... c'est-à-dire qu'il n'avait qu'un corps, et Philippe qui était derrière des machines et qui avait un outillage technologique qui... Cette inégalité était... une forme de métaphore très concrète de ce qu'on pouvait vivre dans une... Et donc premièrement, ce travail est un travail quasiment audiovisuel. Philippe reparlera peut-être de catégories assez précisément, c'est qu'il n'y avait pas de code, hein, c'est une vidéo, et la seule forme interactive, c'était ma captation. Voilà, c'était fait sur After Effects, donc un logiciel de création, de compositing vidéo. Par contre, et donc à partir de cette première performance, une autre s'est construite qui s'appelait Kleinomachine, et qui est la poursuite de ces questions sur la relation corps-machine, la relation espace réel et espace virtuel, comment le corps peut interagir avec un espace, avec une matière virtuelle qui est loin d'être... immatériel en plus, mais comment ces deux matérialités technologiques et physiques se rencontrent. Donc il y a à la fois un travail du corps et un travail de la voix. Personnellement, la voix pour moi est quelque chose de physique, hein, donc le son est quelque chose de physique. Voilà, ça c'est le patch de création de Kleinomachine. Et en fait, cette deuxième performance, c'est la première où on a utilisé le code et Pure Data dont Philippe parlera tout à l'heure. Juste pour tout de suite quand même introduire la problématique, qui est que la seule technologie qui permet une synthèse réelle entre le son, l'image, le texte, et qui permet une interactivité, c'est le code. Et ça s'appelle quelque chose de numérique. Un travail numérique fondamentalement, et non plus audiovisuel ou multimédia, sachant que on a aussi appelé à un moment donné, on pourrait aussi faire rentrer notre travail dans le multimédia, même si le multimédia pourrait être appliqué à des pratiques beaucoup plus larges qui combinent le son, un tas de sable, un vidéoprojecteur, des chaises, voilà, le multimédia c'est l'agencement de différents médiums, alors que nous on a essayé de travailler. Maintenant, on travaille exclusivement avec ce logiciel Pure Data, qui est un logiciel libre de création, qui permet l'interactivité son image. Logiciel de programmation, Philippe, tu en parleras plus précisément. Donc, pour revenir un petit peu au fil de nos créations, après cette performance Kleinomachine qui reprenait, pareil, cette problématique du corps. Comment le corps peut réinsuffler de la vie, comment il peut revivifier des dispositifs techniques et des outils techniques. On a fait deux autres travaux qui étaient beaucoup plus liés à des questions d'écriture. Hept, c'était un travail sur l'histoire de l'écriture, de sa naissance, donc au premier signe, jusqu'à l'écriture informatique, pour essayer de faire une liaison entre... l'ensemble des pratiques d'écriture à travers l'histoire, et surtout pour essayer d'exposer que tout système de langage est un code et que le langage informatique pouvait aussi être une écriture. On a fait un travail qui s'appelait Synapse aussi sur une exploration du langage scientifique, que c'est une performance qui a été très peu développée puisqu'elle était très lourde et on l'a peu faite. Et puis la performance que vous avez vue hier soir pour certains, qui s'appelle Contact et qui est celle qui nous occupe depuis plus d'un an et demi et qui se développe selon des modalités assez variées désormais, puisque avec cette performance on a atteint, sans que ce soit une finalité, quelque chose qu'on cherchait depuis longtemps. C'était une complète improvisation de l'écriture, à la fois visuelle, textuelle et sonore. Pour revenir rapidement sur les deux premières performances qu'on avait faites, il y avait toute une partie improvisée dans des modules, mais il y avait une structure beaucoup plus cinématographique où c'était un agencement. Presque une sorte de petit synopsis où on passait de tableau en tableau et à l'intérieur de ces tableaux on improvisait du son et du texte. Mais avec Contact on est dans une écriture complètement improvisée au sens où pour nous les outils du numérique sont des outils qui offrent en fait cette liberté d'être dans quelque chose de réellement immédiat. Et justement hier pas mal de discussions autour de cette immédiateté. Nous on est dans cette recherche-là, mais dans cette recherche du temps réel, qui est qu'il n'y a aucune chose qui sont prédéfinies. Avant, on avait, personnellement, moi j'écrivais les textes, ou avec Philippe, on agençait des textes que j'avais pu mettre en place. Ces textes étaient des fois lus de façon linéaire, mais pouvaient être aussi des sortes de poèmes-partitions, pour reprendre une définition de Bernard Haitink, sur lesquelles je pouvais improviser, changer. Désormais, avec le travail de Contact, on est déjà deux. Voilà. On est déjà deux à écrire, alors qu'avant, Philippe était beaucoup plus dans le retraitement sonore et dans la machine. Là, on explore une symétrie et un dialogue et une interaction beaucoup plus forte entre tous les deux. Et le texte est entièrement improvisé, donc à la fois au niveau sonore, au niveau de ce qui est écrit à l'écran. Et si le numérique nous paraît important, c'est dans cette dimension de l'immédiateté, de l'éphémère, et surtout puisqu'on s'inscrit dans une histoire, dans un cheminement auprès d'une certaine poésie contemporaine, d'une histoire des avant-gardes, qui est lié aussi à la performance. Et Philippe a posé une définition assez intéressante de notre travail qu'on appelle désormais une poésie action numérique, au sens où on agit dans le numérique. Philippe en parlera plus précisément tout à l'heure. Mais pour revenir sur l'idée de performance, c'est que la performance est quelque chose qui se construit dans un contexte, dans un espace qui et de façon générale jamais la même, jamais tout à fait la même. Et le numérique est un médium qui permet cette modalité et cette vitalité en fait de la création, qui est qu'on est dans quelque chose qui ne cesse de se refaire, de pouvoir se réécrire, de se réagencer de différentes manières. Et si on tient cet éphémère, c'est dans la relation que le numérique a au corps, c'est que on essaye d'interroger à la fois ce que le corps peut produire à la ce que le corps peut générer comme vitalité, comme énergie dans la technique, et inversement comment la technique peut aussi nous reprendre, nous définir, nous recadenasser, nous déterminer. Et sans que ces deux choses soient négatives ou positives, mais c'est dans cette ambivalence en fait c'est cette ambivalence qu'on a envie d'explorer. Parce que c'est ce jeu de déséquilibre permanent entre qui est-ce qui agit sur qui, est-ce que c'est la technique qui définit le corps, est-ce que c'est le corps qui quand même domine la technique. On n'a pas spécialement dans notre pratique de réponse à donner, mais plutôt des interrogations sans cesse entre ces deux pôles en fait et ces deux extrémités. Voilà un petit peu pour les enjeux de notre travail. Contamination réciproque en fait entre le corps et la technique, c'est un petit peu la même chose dans l'écriture. C'est que on a commencé à explorer le numérique parce qu'on avait envie de transformer notre écriture, on avait envie d'écrire autrement. Et inversement, au fil de nos créations, l'usage de ces technologies a aussi transformé notre écriture. C'est au départ, c'est pour ça que je vous ai expliqué que j'avais moi écrit des textes et que ceux-ci pouvaient être lus de différentes manières, agencés de différentes manières. À un moment donné, peut-être que dans Contact, on en est arrivé à cette impossibilité d'écrire quelque chose auparavant. Et surtout, l'usage du son, du visuel, était une réflexion sur... Lui a vraiment transformé la façon dont on écrivait. On va écrire de façon beaucoup plus fragmentée, on va écrire de façon beaucoup plus sonore, on va essayer de penser à quelque chose de beaucoup plus lié à la rythmique, quelque chose qui est beaucoup plus lié au visuel. Donc c'est... hier, on avait parlé un petit peu de cette contamination des outils sur la formation de l'écriture. Qu'est-ce que je pourrais rajouter avant de donner la parole à Philippe?
Donc pour revenir sur ce que disait Hortense, sur notre démarche et un peu approfondir la question, donc c'est cette nomination poésie action numérique. Donc quand Hortense disait, nous sommes partis véritablement de quelque chose qui était le texte littéraire. Quand on dit le texte littéraire, moi je reviens très rapidement sur mon parcours. Moi je viens de la philosophie, Sorbonne, donc tout le parcours classique, mais très proche de la littérature, c'est-à-dire d'une écriture poétique. Et je commence à publier dans les années 90, vraiment des livres, avec cette question qui n'est pas du tout nouvelle. Et je reviendrai après sur la question de l'histoire. Comment elle se constitue, donc pas du tout nouvelle, comment réussir à donner une dynamique des mots. Il y a eu le spatialisme de Garnier, il y a eu les mots en liberté de Marinetti, donc il est évident que d'abord et avant tout, avant d'aller vers de nouvelles formes de médium ou de média ou de l'intermédia, c'est sur la page, la question de la page que je me suis posé, et la question de la dynamique, d'où des expériences effectivement, on va dire constructivistes par moment, de dynamisme, des calligrammes, tout ça pour retrouver quelque chose en fin de compte qui était une intuition au niveau de la pensée. C'est que la dynamique du sens que je pouvais avoir en tant que lecteur, j'aurais bien aimé voulu l'avoir sur une page. Or, l'inscription graphique de l'imprimerie, vous savez, fixe à un moment donné le caractère à la page et nous empêche de retrouver dans une expérience esthétique ce que peut être la dynamique, effectivement, de notre esprit. Donc de là, je fais des expériences. Alors c'est très 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 amusant. J'arrive, attends, parce que moi je vais me servir de l'ordinateur. J'arrive à des choses. Et il est bien évident qu'à un moment donné, je me dis bon, ça ne fonctionne pas. Et donc vers 98, c'est la vidéo. D'une façon simple, donc le terme vidéopoétrie, je ne sais pas trop ce qu'on peut mettre à l'époque dessous. Je pense que je suis assez inculte. Non, en tout cas, je commence à faire de la vidéopoétrie avec quoi ? Avec After Effects. After Effects était très bien, donc j'avais un peu touché l'ActionScript Flash. Je connaissais pas Director, par exemple, sur lequel on travaillait énormément de pionniers. Je pense que Jean-Pierre a travaillé, bien sûr, avec Director et énormément de pionniers. Et donc moi, je fais quoi ? Je fais une poésie dynamique et immédiatement toujours le même problème. La première fois que j'agis avec, c'est bien, il y a une dynamique. La deuxième fois, elle se répète, la dynamique. La troisième fois, une forme d'ennui, le mouvement en vidéo est toujours le même. On a beau vouloir donner du mouvement, ce mouvement, effectivement, il n'est pas génératif, il n'est pas fait dans l'immédiateté. Effectivement, il y a une fixation temporelle, spatiale, du texte dans la vidéo. Et cette fixation m'empêchait d'un coup de retrouver quoi ? Cette dynamique de mon esprit. Et c'est là où la question de la programmation est venue. La programmation est venue pour me dire, je ne veux pas être tenu à un moment donné dans la répétition. Je veux que l'élément de différence ne soit pas simplement l'élément de lecture du lecteur, de cette expérience-là. L'élément de différence doit intervenir dans le médium. Et donc, à un moment donné, va se produire quoi ? la possibilité pour le lecteur de faire lui-même une expérience différente parce qu'il y a la variation de la représentation. Et donc, voilà pourquoi, à un moment donné, se pose la question du code. Le code, c'est quoi ? Ça va être la possibilité d'animer, d'une façon parfois aléatoire, avec des variables du texte, de l'image, du son, et qu'à chaque fois se module une différence qui va permettre peut-être une différence d'expérience de la part d'un spectateur ou d'un lecteur. De là, maintenant, pour introduire poésie action numérique, la poésie action, c'est quand Bernard Haitink, dans les années 50, vous pouvez aller lire ces notes qui ont été publiées aux éditions Aldante, se dit il faut arracher le texte de la page. Il faut vivifier le texte par la langue. Mais pas seulement par la langue, la langue comme ça, au sens où pourrait le faire Julien Blaine, par exemple. Non, la langue dans un dispositif technique, et il introduit le révox. Il se dit, ma langue qui est fixée à mon cadre biologique, je vais effectivement quoi ? L'expanser, c'est-à-dire il ne s'agit pas de produire autre chose, il s'agit d'expanser par une prothèse, effectivement, qui s'appelle le révox, qui est un magnétophone, expanser ma possibilité élocutoire dans l'espace, la spatialisation. Il ne faut jamais oublier que Bernard Haitink a le premier prix de musique électro-acoustique à Bourges, à un moment donné. C'est-à-dire que ça a été vraiment un dispositif sonore. Et donc il commence à faire vadouze, des poèmes partitions. Et effectivement, on a de la stéréo. Comment voulez-vous m'entendre en stéréo ? Puisque le son de ma bouche, effectivement, est mono. D'un coup, on peut avoir de la stéréo. D'un coup, je peux avoir un écart. Hein. Il fait premier étage. Premier étage. Et d'un coup, deuxième étage. Et on entend quoi, l'écho ? Premier étage. C'est-à-dire qu'on peut diffracter la temporalité du poème. Et ça, ça devient très intéressant, c'est le dispositif technique qui ouvre une nouvelle intentionnalité temporelle dans le poème, c'est-à-dire que le lecteur, par exemple, doit revenir en arrière pour faire le sample, ou pour faire la boucle. Là, d'un coup, c'est quoi ? C'est dans la présence continue de mon audition, j'entends l'écho de ce que j'ai entendu, grâce à quoi ? Au dispositif technique. Poésie, action, c'est une action dans la poésie. Et cette action, c'est une transformation, effectivement, de la chose par le dispositif technique. D'où, d'un coup, je fais le lien. Cette lignée historique de la naissance de la poésie-action et de l'autre côté, quoi ? Effectivement, l'intervention du code, du numérique. Poésie-action numérique. La poésie-action numérique, c'est quoi ? C'est l'introduction donc du numérique dans la poésie-action et l'introduction de ce qu'avait fait parfaitement Bernard Haitink, mais par le numérique, de nouvelles causalités. Qu'est-ce que fait Bernard Haitink ? Il introduit une nouvelle causalité à la fois spatiale, je vous l'ai dit, et temporelle dans le poème. Des choses qui ne pouvaient pas avoir lieu auparavant, sauf dans des dispositifs, par exemple, polyphoniques ou des choses comme ça. Eh bien, le numérique nous ouvre à quoi ? À de nouvelles potentialités causales, de nouvelles causalités, effectivement, au niveau de ce qu'on pourrait appeler, à un moment donné, le poème. Pour revenir maintenant sur ce parcours de HP Process, et je vous montrer des exemples, il est évident que si j'écris, comme ça s'est fait, mais dès le début du siècle, un poème sur un mur, et j'aimerais que ma voix soit interactive avec le poème que j'ai écrit, vous pouvez vous mettre 1 million d'années face à ce mur et crier contre le mur, il y aura peu à peu, par l'acidité de votre salive, peut-être une usure de l'encre, mais jamais vous ne ferez bouger le poème. D'un coup, c'était la possibilité de quoi, avec Hortense, que sa voix, et ça a été très rapidement dans ce début de jonction entre Bot Code Project et Kleine Machine, sa voix, et on l'avait présentée à e-poétrie à l'époque, etc., à la fin où elle sort justement de la dimension de la machine, sa voix faisait étirer vraiment, d'une façon très graphique, toute l'écriture, elle était entourée, elle était nue, captée en temps réel, donc elle était dans une bulle de mots, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Et d'un coup, sa voix étirait les lettres, c'est-à-dire l'intensité de sa voix intervenait en temps réel sur la graphie qu'on avait des mots. Et donc le poème visuel, la poésie visuelle, était générative dans sa graphie en temps réel. Et générative non pas parce que je fais le geste de la graphie, mais parce que je relie causalement quelque chose qu'on appelle le souffle, mon timbre, la hauteur, par exemple, l'analyse de fréquence, à quelque chose qu'on appelle l'écriture du mot. Alors qu'auparavant, une intervention graphique, c'est toujours la relation analogique entre mon poignet qui écrit, effectivement, et l'écriture qui se réalise. Et d'un coup, la voix pouvait réaliser de l'écriture, transformer de l'écriture, peindre de l'écriture, voir, c'est ce qu'on a présenté à Barjol il n'y a pas hyper longtemps, configurer de l'écriture, c'est-à-dire à partir de ce que présentait très bien Serge Bouchardon hier, à partir d'un nuage de petites lettres, effectivement, par rapport à des vocables, Hortense parlant, d'un coup, sur des fréquences, ça génère des mots et ces mots tombent et rebondissent. Et peu à peu, elle fait un poème rebondissant, comme ça, sur les rebonds de sa langue. Alors, voilà. Ça, pour vous présenter la chose, c'est Hortense. Et ici, c'est le début, justement, de l'explosion. Et elle va se mettre... T'es nue ou t'es pas nue? Non, t'es pas encore nue. Et elle est entourée par ce... Déjà, vous voyez, par ces mots... En fait, ce sont des mots qui commencent déjà à vibrer. Et c'est la voix en temps réel qui fait vibrer. Et montre voilà des choses comme ça. Et ici, en fait, elle est là et là. Et peu à peu, ça, effectivement, elle diffractionne. Je continue. Donc, cette causalité, la poésie-action numérique, c'est la possibilité, effectivement, d'introduire de nouvelles formes de causalité. Et maintenant, c'était ce que j'avais dit tout à l'heure, je le précise, non pas en rupture avec une tradition, c'est pour ça que tout de suite je me suis référé aux mots en liberté, par exemple, chez les futuristes, Marinetti, entre autres, etc. C'est-à-dire justement dans une interrogation qui a traversé, je crois, tout le siècle, c'est-à-dire que le numérique n'est pas une rupture avec ce qui précède, c'est la continuité d'une intuition, mais par la transformation, bien sûr, de cette intuition par le médium. C'est-à-dire que le médium transforme, bien sûr, l'intuition et l'intention que nous avons. Et je ne crois pas qu'il y ait de rupture là, mais cette continuité, effectivement, introduit des différences par son médium. Donc, introduit, effectivement, quelque chose qui peut être, effectivement, une différence, une forme de différenciation. À partir de là, donc, on a commencé à faire ces performances. Donc, Kleine Machine est la première vraiment programmée entièrement en pure data. Alors, programmée en pure data, tout simplement, pure data, c'est un langage. Vous avez vu tout à l'heure le langage qui était employé, qui est des langages beaucoup plus linéaires, effectivement, par Jean-Pierre Balpe. Pure data fait partie de ces types de langages qu'on appelle des langages modulaires qui ont été créés à l'IRCAM pour la musique à l'origine, hein, par quelqu'un qui s'appelle Myler Pouquet. Et Myler Pouquet a créé ça donc pour faire du son, tout simplement, et gérer du son à l'IRCAM dans les années 80. Et ça s'appelle Max, qui est devenu Max MSP, distribué par Recycling. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est devenu une licence propriétaire. Et face à cela, Myler Pouquet a redéveloppé le même langage que Max, mais en open source et en freeware. C'est-à-dire que ce langage modulaire, vous pouvez, il n'y a pas de licence à avoir, est distribué complètement en open source. Et donc, c'est une programmation vraiment modulaire. C'est-à-dire, on n'écrit pas des lignes de code, comme vous avez vu avec Jean-Pierre Balpe. Nous créons effectivement le code par des formes diagrammatiques, par des architectures. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il ne peut pas y avoir de code. Bon, je ne rentrerai pas dans la technique, mais effectivement, à l'intérieur, on peut réintroduire du code écrit en linéaire, par des scripts, etc. Mais donc, on a commencé avec Kleine Machine à utiliser ce code. Celui-là, il est petit, c'est parce que quand Jean-Pierre était en train de parler, j'étais en train de me dire, tiens, moi, je vais me faire aussi mon générateur de texte infini pour écrire mes propres romans avec ma propre matrice. Donc, c'est les premières bases d'un générateur de texte, quoi. Voilà. Donc, c'est tout petit pour l'instant. Donc, poésie, action numérique, nouvelle causalité. Causalité qui nous intéressait énormément et qui est au cœur, si vous avez été là, de ce que nous présentons, c'est le corps. Il est bien évident que je vous ai parlé de la voix, mais ce qui nous intéresse pour nous, c'est pas simplement le texte. Et là, je fais une grande précision et une critique du monde universitaire tel que je le connais, et tel que je le conçois de loin, puisque je n'appartiens pas à l'université, c'est que je m'aperçois que bon nombre de livres que je vois ou de colloques que je vois, on parle du web, des œuvres sur le web, et je l'ai dit encore avec provocation au colloque e-forme à Saint-Étienne, j'ai dit, les universitaires, c'est normal qu'ils ne parlent que des œuvres sur le web, de toute façon, ils ne sont pas invités dans les festivals, donc ils ne savent pas ce qui se passe en performance ou en installation. Donc c'est très facile de rester confortablement face à son ordinateur et de prendre les œuvres qu'il y a sur le web. Pour nous, justement, la poésie numérique, si elle a lieu sur le web, et je le reconnais, est avec pertinence. Il y a des très 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 belles œuvres qui sont faites sur le web. Elle est aussi développée, par exemple celle de Serge Bourgeois-Chardon qui nous a montré, je la trouve très fine, intelligente, et bon, je la connaissais parce que j'étais à l'époque quand tu l'as distribué, fait partie des un peu pas des bêta-testeurs, mais des gens qui l'ont découverte quand tu l'as mise. Il y a quelque chose. C'est vrai que le travail, par exemple, que fait Jean-Pierre Ball, pour prendre des gens qui sont ici, de même, a une véritable pertinence sur le web. Et il nous l'a montré, effectivement, cette toile d'araignée, le web le permet. Et là, je crois qu'il y a une pertinence réelle, parce que c'est une véritable interrogation du médium. Mais il y a énormément d'œuvres qui sont liées au texte, à une poétique, qui n'appartiennent pas au web. Pourquoi ? Parce que tout simplement les technologies qu'elles impliquent dépassent largement la simplicité, je suis désolé de le dire, à un moment donné, de ce qu'on appelle l'interacteur clavier ou petite caméra. Je vais vous donner simplement un exemple de poésie action numérique. J'étais le programmateur, c'est tout, hein. Je suis que le programmateur informatique. C'est Lucille Calmel au Théâtre Paris-Villette pour le festival Open en juin. C'était une petite forme qui n'a pas de temps, c'est-à-dire qu'elle a duré entre 15 minutes et 45 minutes, a été présentée 3 fois par soir et sur plusieurs soirs d'affilée. Pourquoi elle n'avait pas de temps? Parce que ça dépendait de cette jonction de Lucille Calmel dans un espace. Et maintenant, je vous décris l'espace. 11 spectateurs, pas plus. Toute petite pièce. Une Kinect. La Kinect, pour ceux qui ne savent pas, c'est la caméra de Microsoft en infrarouge qui est faite pour jouer, qu'on a hackée pour s'en servir comme un capteur sur les ordinateurs. Donc, une Kinect au plafond qui lui permet quoi, Lucille Calmel? Chaque endroit de son corps est un interacteur. Si, par exemple, à un moment donné, elle met sa main contre la cuisse, ça va interroger telle banque de données, ou ça va faire circuler le texte à tel endroit de la pièce. De même, elle pouvait explorer les bandes sonores d'enregistrement qu'elle avait fait depuis des années, simplement en se déplaçant dans la pièce, elle venait interroger sa propre mémoire. C'est-à-dire qu'on avait fait une cartographie sonore de sa propre mémoire. Donc, cette pièce-là, on mettait des gens au cœur d'une pensée, mais au sens physique, puisqu'il y avait des vidéoprojecteurs, ils étaient entourés de représentations. Et Lucille Calmel voyageait dans cette dimension d'un point de vue haptique, en touchant des zones invisibles qui déclenchaient donc des enregistrements, qui déclenchaient du texte, qui déclenchaient des zones rouges, des zones blanches, d'espace, etc., des zones de tension, de la synthèse granulaire. Bon, un dispositif comme ça, vous l'avez compris, ce n'est pas un dispositif qu'on peut avoir sur le web. Il dépasse largement le cadre du web. Là-dedans, on avait des générateurs. On travaillait grosso modo sur les archives de Lucille Calmel de 2000 à 2008, ce qu'elle a fait sur le web, sur toutes les listes de diffusion et les mailing lists, ce qui représentait, je sais pas combien, de dizaines de milliers de pages. Donc des millions et des millions de caractères, etc. Et tout ça avec, bien sûr, des champs sémantiques. C'est-à-dire qu'elle pouvait interroger ses amants. En fait, c'était une interrogation sur ses amants. Et elle voyageait dans la mémoire de ses amours passés et commence à la réaffecter, etc. Des dispositifs comme ça, vous voyez, où on introduit beaucoup de causalité, ne se réduisent pas au web. Et donc, pour revenir à HP Process, nous, ce qui nous a intéressé, ça a été d'introduire le corps. Parce que le corps, sur le texte, vous le savez parfaitement, vous avez vu des lectures, si je suis un poète, on va dire, et je respecte totalement parce que j'aime beaucoup la poésie, et puis j'aime beaucoup des grands lecteurs de table, et même des lecteurs qui ne donnent pas forcément beaucoup d'intention, hein, que je peux énormément aimer. Mais un lecteur de table va avoir sa tonalité. Donc il va vous lire son poème, comme ça, avec une belle voix, suave, chemise blanche, pull en V, etc. Si vous avez Charles Penquin, il vous fera autre chose. hein, il vous fera le père, il a dit, qu'est-ce qu'il y a, t'étais tout petit quand t'étais tout petit. Bon, vous voyez, il y a une tonalité chez Charles Penka, de même que Prigent aura une tonalité, etc. Il est évident que si vous voyez Aitzik n'est jamais à une table. Il va être debout. Comme si vous prenez Patrick, qui a organisé la soirée hier, il y a des gestes, et on sent la musique, on sent une recherche musicale. Et ces gestes-là du corps, attention, ce n'est pas des accessoires. C'est ce qui fait qu'il y a de la voix. C'est-à-dire que la voix... Et comme vous connaissez des chanteurs ou une cantatrice ou un ténor, etc., il est évident que le geste permet des pressions au niveau cage thoracique, circulation d'air, etc., qui donne quelque chose qui s'appelle une causalité, qui permet un timbre, qui permet une hauteur, etc. Eh bien, nous, d'un coup, on s'est interrogé sur tout ça. Comment les positions du corps, ce que nous faisons, la nudité, la non-nudité, la fixité à une table, la fixité face à une caméra, ce ne sont pas des accessoires. C'est vraiment des présences qui permettent du texte, c'est-à-dire de la création textuelle. Quand, dans Bot Code Project, Hortense tenait 30 minutes sans bouger face à une caméra, à dire son texte, de profil face au public, le public ne la voyant de face qu'en représentation vidéo, il est évident que au moment où elle commence à crier, parce qu'elle va commencer à bouger, ça lui permet, le cri est permis parce qu'elle commence à bouger, etc., il se produit quelque chose dans le texte. Et comme je vous dis, cette causalité, c'est quoi? C'est le texte explose, la diffraction explose, et tout l'appareil de capture explose. Il est évident que ceux qui étaient là hier, quand vous nous voyez 25 minutes durant ne pas bouger de nos tables, de dos face à vous, c'est fait exprès. Vous êtes obligés de rentrer dans l'intimité, d'être curieux. Et cette curiosité, c'est pas simplement l'écran que vous voyez là. Vous avez envie de regarder nos écrans d'ordinateur. En fait, vous aimeriez tous. C'est ça qu'on s'est posé comme question. On aimerait être petite souris pour savoir ce qui s'est dit. Et ben, c'est comme les chats. On aimerait par moment savoir ce qui s'écrit sur un SMS de quelqu'un d'autre. On aimerait. Et on vous met en position de quoi, de voyeur. Et ça ne peut être accompagné qu'avec une densité sonore qui peu à peu, effectivement, crée quelque chose qui est de sorte de la compression. Il est évident qu'on va pas vous faire de la musac, c'est-à-dire une musique d'ascenseur où vous allez être relax. On va être obligé. D'où j'ai demandé un sub basse, parce que vous le savez parfaitement que les fréquences basses qu'on utilise pour les films d'horreur rendent anxiogènes. Et donc, on crée une dimension anxiogène, redoublée par nos voix, parce que moi j'ai un filtre qui me permet, alors là je suis grosso modo allé jusqu'à 70 Hz, je suis pas allé plus bas, mais je pouvais aller jusqu'à 50 Hz avec le sub-bass, et je suis déjà descendu dans les 30 Hz avec ma voix. Et dans l'après-midi, si vous étiez dans les salles de conférence, à un moment donné je m'amusais à faire des battements qui faisaient vibrer les murs, j'étais à 40 Hz à peu près. À 40 Hz, je peux vous dire, votre cage thoracique, vous la sentez. Et là, c'est très anxiogène. Donc, le corps, le dispositif, vous voyez, du corps, nous intéresse. Alors, là, on l'a pas fait, on l'avait fait à Saint-Étienne, on fait souvent, on a des capteurs, normalement, pour rebouger, en plus, les mots dans l'espace, simplement avec nos mains, etc. Donc, tous ces dispositifs, nous les mettons en place pour introduire ces nouvelles causalités. Et donc, ces nouvelles possibilités d'écrire. Et donc, quand, par exemple, on a la main, et on bouge les mots comme ça avec, donc, on se lève des ordinateurs et on continue à réécrire le texte en bougeant les mots. Donc on a ici des connecteurs, ici on a ce qui nous permet d'avoir un repère XY au niveau de l'écran, et donc on prend les mots, on les bouge, ce qui nous permet de réagencer ou de faire des pluies de mots sur nos corps, etc. On introduit une nouvelle forme d'écriture. Et donc on introduit ces nouvelles formes de causalité. Et donc ces causalités nous ont mené, Poésie Action Numérique, toujours de se poser la question, à un moment donné, de se dire, donc on a introduit la voix, on a introduit le mouvement, on a introduit le corps, on a introduit les médiums, les interactions avec différents procédés, donc détournement de Kinect, détournement de Wii, détournement de iPhone, etc. Ou des capteurs autres qu'on peut avoir, qu'on commande. Et à un moment donné, on s'est posé cette question, et ça a été donc notre dernière ligne de travail, et après je terminerai sur une œuvre qu'on est en train de développer. Justement, de tout ce qu'on appelle les écritures numériques, la poésie numérique. Hier, il y avait donc un conférencier qui parlait d'écriture numérique, et pour moi, c'était pas de l'écriture numérique, c'était, mais je crois que le débat a déjà eu lieu ici, j'étais pas là encore, c'est ce qu'on appelle de l'écriture sur support numérique. Un PDF n'est pas d'une écriture numérique. Écrire sur du Word ou écrire sur un pirate pad n'est pas une écriture numérique. S'il n'y a pas transformation de quelque chose, c'est une écriture sur support numérique. Et par exemple, je peux vous dire que la grande institution qu'on appelle la Société des gens de lettres de France, qui est une des plus grandes sociétés d'écrivains en France, n'est pas dupe, elle a créé un prix multimédia et elle ne récompense que des dispositifs de création générative de texte. Elle ne récompense pas un PDF ou un livre publié sur je sais pas quoi, sur quelle maison d'édition numérique. Hein. Bon. Et donc nous on s'est posé cette question-là et on s'est dit, voilà, les gens ils parlent de tout ça, et nous aussi on va interroger à notre manière Internet. Et on est revenu à Internet, alors que vous voyez, je vous ai parlé de l'arrachement d'Internet, de la façon critique que moi, en tout cas, je pouvais avoir d'Internet. Et on s'est dit, on va revenir à Internet, mais on va revenir totalement différemment. Et je présentais ça hier, et donc ça, c'est hier, donc le site, attendez, je vais vous mettre directement sur le site. Voilà, c'est ça, hein, contacthp.com. Ça, c'est donc ce qui a eu lieu hier. Et donc on s'est dit, si on introduit de nouvelles causalités de présence, ce qu'il nous faut, c'est introduire aussi de nouvelles causalités d'archivage, de rétention. Comme je vous dis, le texte ne doit jamais se reproduire, ou quand il doit se reproduire, il doit se déplacer, il doit se transformer. Et on s'est posé la question, comment, en étant ici, faisant une performance ici, qui n'appartient qu'à ce lieu-là, elle peut apparaître ailleurs, être donnée ailleurs. Alors, vous avez un choix, c'est le streaming. Bon, ça, on l'a déjà fait, le streaming. Donc, vous mettez une caméra et vous streamez ce qui se passe et les gens voient ce qui se passe. Or, ce n'est pas réellement, ils voient pas ce qui se passe, ils voient une représentation médiatique de ce qui se passe. C'est pas réellement la performance. On s'est dit, il faut faire une performance en temps réel, à côté, avec une interrogation du médium qu'il y a à côté. Et donc si on travaille,
c'est même pas, enfin juste un temps, c'est même pas à côté, c'est que, enfin non, on reviendra après, mais sur le numérique permet des concomitances en fait, des simultanéités justement de régime d'écriture et de médium d'écriture.
Et donc Hortense le dit vraiment là avec une très très grande pertinence, c'est cette simultanéité effectivement de régime d'écriture. Et donc ce site là qui s'est généré hier en temps réel pendant qu'on était face à vous. Ce n'est pas un blog, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est préprogrammé avant, dans lequel on balance du texte. Le site, quand vous commencez avant la performance, vous allez le voir, c'est erreur 404. La page HTML n'existe pas. Tout le code HTML, pendant qu'on nous tapons, s'écrit en temps réel. C'est-à-dire que tout simplement, j'ai un générateur de code HTML qui est lié à tout ce que nous tapons, avec des variables JavaScript, etc. Et donc, cet archivage de la performance se fait effectivement en temps réel selon ce qu'on appelle un médium d'écriture qu'on appelle le HTML5 plus le JavaScript.
En génératif.
Et par exemple, quelque chose que vous ne voyez pas, qui n'est vu qu'ici. C'est que vous, tout ce qui est à l'écran, il n'y a jamais marqué elle et lui. Or, justement, dans le générateur de ce site, quand elle écrit, c'est marqué elle. Quand j'écris, c'est marqué lui. Ce qui veut dire qu'ils ont accès à une information que vous n'avez pas, qui n'existe performativement que sur le web.
Enfin, qu'on a, mais sous une autre forme.
Vous l'avez sous une forme graphique et une autre forme qui est la spatialisation des deux écrans. Alors qu'ici, sur un seul écran, ils ont la répartition, effectivement, de la chose à partir de cette écriture. Et là, je crois que, effectivement, ce qui nous intéressait, d'un coup, c'est une nouvelle causalité, c'est-à-dire cette simultanéité médiumnique qui nous intéressait. La question de l'archivage, on interrogeait la question de l'archivage, vous le savez parfaitement, et c'est un lieu commun, il n'y a pas d'objectivité de la mémoire. Vous avez, même si vous prenez une phrase, vous la mettez dans un coffre, vous la ressortez au bout de une semaine, vous la relisez, ce n'est plus la même phrase. Elle a été transformée par votre propre transformation d'existence. Et justement, les gens, le numérique, ils ont un peu trop tendance à penser qu'on peut reproduire à outrance, qu'on peut démultiplier, que c'est toujours la même chose, qu'il y aurait quelque chose qui serait d'un coup une dureté du numérique que n'auraient pas les choses du temps. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de montrer que le numérique archive avec d'autres manières, du moins d'autres logiques, qu'il y a une transformation, il y a des perturbations, il y a même des accidents. Alors, ce qui est marrant, c'est quand vous suivez en temps réel sur le web, c'est que par moment ça s'affiche pas parce qu'il y a des bugs. Comme je génère le site à longueur de temps, par moment le code est déstructuré, il n'arrive pas à se restructurer, et donc vous tombez sur une colonne de mots, vous tombez sur rien, une page blanche, et puis ça se recharge et d'un coup ça revient. C'est-à-dire il y a toute cette vie du numérique, des paquets d'informations, etc., qui se produit en temps réel pour les gens. Et nous, c'est ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'interroger le numérique dans quoi, dans sa manière de défaillir. Par moment, effectivement, et moi j'aime beaucoup le choix que tu as fait, Jean-Pierre, quand tu dis moi j'ai choisi d'être sur des blogs publics, et oui il y a de la pub, et oui ça interfère, t'acceptes du noise, t'acceptes du bruit dans ta propre écriture, parce que tu sais parfaitement que ton générateur lui-même peut par moment créer ce noise, bugger, etc. Et cette interrogation du médium, effectivement, et de son accidentalité est fondamentale, parce que si on est dans la poésie, il est évident que la poésie se fait par des accidents. Les inventions de langage, ce sont des accidents de la matière et du langage. Quand je dis des accidents de la matière et du langage, je reprendrai simplement l'expression de Christian Prigent. Une erreur de la nature, c'est le poète. Le poète, c'est quoi? C'est quelqu'un, effectivement, qui a des problèmes de langage. Et parce qu'il a un problème de langage, il crée du langage. Hein, c'est l'enfant du langage, l'infance, il crée du langage, il bégaye la langue, pour reprendre Gerasim Luca, hein, il bégaye la langue, et bégayant la langue, il crée quelque chose qui, à un moment donné, va faire une nouvelle forme. Eh bien, justement, le numérique, si vous le faites bégayer, il vous crée de nouvelles formes. Et nous, dans HP Process, justement, on essaie de pousser par moment des formes de bégaiement, c'est-à-dire de saturation de l'information dans le numérique, des ralentissements, et ça crée des nouvelles formes qui nous interrogent, et on poursuit là-dessus. Je terminerai simplement sur, donc, nouvelle causalité. C'est ce qu'on est en train de développer qui s'appelle World City. Alors là, je vais vous montrer des visuels. On va fermer. C'est nos derniers visuels. Alors ça, c'est sur contact.hp.com. Contact comme contact.
-hp.com.
Autrement, pour voir tous les dossiers qui expliquent toutes nos performances et des vidéos, il faut aller hp-process.com. Voilà. De toute façon, vous mettez HP Process. C'est pas les imprimantes HP qui sortent d'abord. C'est qu'on a réussi à leur passer devant maintenant, je crois. Donc je suis assez content, quoi, d'être devant Hewlett Packard.
Juste pour revenir sur ce que disait comme causalité liée au numérique, j'ai parlé de l'éphémère de façon un peu brouillonne à un moment donné. Mais c'est que si on a eu cette nécessité du numérique, c'est que oui, c'est parce qu'il y avait des problèmes de langage. Hein. Je pense toi différemment. Enfin, on avait chacun nos problèmes de langage. Moi, c'est impossible d'écrire de façon linéaire et de façon un peu correcte ou avec un langage poétique classique. Et en fait, c'est aussi l'impossibilité de rendre compte d'expériences et d'états de corps et d'états d'être dans lesquels on est actuellement, qui sont à la fois la simultanéité des informations qu'on reçoit, à la fois la multiplicité et la dimension multiple de nos êtres. Je pense que beaucoup de gens qui ont des pratiques, même Jean-Pierre, c'est une réponse à cette multiplicité des êtres, sa multiplication des personnages, des robots comme ça qui interagissent entre eux. Nous, dans, par exemple, Contact, il y a différentes strates d'écriture simultanées et qui rendent compte vraiment de ce feuilletage aussi que l'on peut avoir psychique et corporel. En fait, c'est que à la fois on peut être en train d'écrire quelque chose dans le texte, et ce qu'on va taper à l'écran va être un régime d'écriture différent de ce qu'on va dire au niveau sonore. Et parfois, les deux ensemble produisent des diffractions. C'est que je vais bégayer à l'écrit parce que je tape, et je vais arriver mieux à le dire à l'oral reformuler dans le son. Ce qui va, pareil, s'écrire quand on va interagir avec dans l'écran, quand on a notre main interactive, ça va être aussi différent. Ça va être la possibilité de spatialiser ce qu'on vient d'écrire. Donc, à nouveau un autre régime de composition du texte, et en même temps, simultanément, un quatrième, on va dire, régime d'écriture qui est l'archive, qui réagence par de vers de nous ce qu'on est en train d'écrire. Et donc,
c'est vraiment ce feuilletage-là, ces strates comme ça d'écriture qui nous constituent, qui peuvent être, dont on peut rendre compte en temps réel, et plus ou moins sur des décalages temporels. Et on va dire la cinquième dimension de ce travail contact qu'on a montré hier, c'est une installation qu'on a développée, à qui on a donné un autre titre qui est une citation d'Adorno, qui dit, le fantôme grandit sous la main qui écrit. Et en fait, c'est l'idée que plus on cherche à écrire à l'autre, plus on cherche à communiquer avec quelqu'un, plus finalement on s'éloigne aussi de lui, on s'éloigne même de nous-mêmes, on crée des fantômes, on crée des avatars, on crée des êtres qui sont plus vraiment nous, et à la fois qui sont peut-être des projections différées de nous-mêmes. Et donc c'est une petite installation assez simple, tu peux me montrer une image où on a repris nos vidéos, on est là un peu exhibitionniste, en train de se montrer. Bon, ça, c'était une forme de mimétique. On en a parlé hier soir des sites de rencontres ou des trucs comme Chatroulette, où on voit des gens sur Internet qui s'exhibent dans une perspective de contact, hein, puisque les technologies, les outils numériques sont avant tout des outils qui sont censés nous rapprocher, nous permettre de mieux communiquer. Et là, dans l'installation, c'est l'agent de l'installation, le spectateur, qui est un acteur, a une manette Wii. Et en fait, il va avec sa manette Wii, il va créer des tracés de lettres. Il appuie sur le bouton, il déclenche une lettre et il peut la bouger et lui donner un parcours. Dès qu'il réappuie sur le bouton, il déclenche une autre lettre. Et donc, comme ça, il peut créer une circulation assez infinie de lettres à l'écran. Et en fait, plus il va créer de lettres, plus un personnage féminin ou masculin va s'avancer dans l'écran, donc comme s'il lui écrivait. En plus, il est à moitié nu, donc il y a une forme d'érotisme de l'écriture et une forme de désir qui peut se construire par rapport à l'apparition de cet individu. Et en même temps, plus la personne va apparaître, plus elle va se brouiller. Et en fait, au moment où on pense pouvoir la voir, elle va être complètement brouillée par des perturbations numériques. Et c'était un peu une petite métaphore de aussi ce qu'on est en train d'essayer de faire avec Contact, qui est plus parfois on cherche à se rapprocher de l'autre, plus à la fois on s'éloigne, ou parfois même c'est inversement, la distance qu'il y a entre nous et le lieu qui nous permet de nous parler. Enfin voilà, ces explorations aussi comme ça de...
Donc ça, c'est le fantôme grandit sous la main qui écrit. Donc ça, la dernière version. Donc la personne, comme elle dit... dessine à la main.
J'ai
écrit. Ah ouais, voilà.
Non, c'est juste qu'en plus, enfin, on est en train de développer, là, tu pourras rebondir ce qu'on est en train de faire, de plus en plus des projets participatifs où les spectateurs qui sont invités à participer au processus d'écriture.
Donc là, et donc ça bug à la fin. C'est que plus on écrit à quelqu'un, plus il se rapproche, mais plus il se rapproche, plus il s'éloigne. Par quoi ? Parce qu'il y a une optique technologique. Vous voyez, c'est le bug qui se crée peu à peu, les diffractions, etc.
Et je crois, enfin, pour terminer sur cette dimension du temps réel et de l'éphémère de l'écriture numérique, c'est que le numérique est ce qui nous permet de rendre compte... Non, on n'entend pas. Oui, alors, il y a une voix synthétique, parce qu'il y a un poème qui s'écrit toutes les lettres combinées, toutes les lettres qui ont été tracées par le spectateur, l'agent, crée aléatoirement des mots, hein, donc on a créé une banque qui crée une sorte de poème. Donc on l'a fait en anglais parce que donc pareil, une création sonore générative qui se génère selon les tracés des lettres. Et ce genre de travail, enfin, ce qu'on fait à la fois en performance ou en installation, c'est aussi rendre compte à la fois, je disais, de l'éphémère, de la simultanéité, de la multiplicité et surtout de la vitalité des flux. Et si le numérique nous permet de quelque chose, c'est comme ça justement de ne pas figer. Loin de moi l'idée de penser que la poésie dans un livre est figée. Hein, il faut pas. Et on est des grands défenseurs du livre et de la poésie papier aussi. C'est qu'à un moment donné, il y a des problématiques, des nécessités où nous c'était cette envie de vraiment rendre compte des flux qui nous traversent, de se laisser traverser même par ces flux technologiques, ces flux de discours qui sont sans cesse en train de nous irriguer. Et voilà. Et donc la dernière, le dernier projet, c'est un projet de d'installation aussi participative dans l'espace public, composé à partir de la toponymie urbaine, où c'est l'ensemble des habitants de la ville qui enverraient par téléphonie mobile les lieux où ils se trouvent, enfin les toponymes, donc le nom de rue, de place, de métro, de café, de restaurant de la ville, et qui seraient retraduits dans cette masse de lettres. Hein, chaque personne qui enverrait par téléphone, le mot s'affiche et défile dans la masse de lettres. Et
je te laisse continuer. Alors, donc, World City. Donc, quand je parlais de nouvelles causalités, ce qui nous intéresse avec World City, donc, c'est l'emploi voilà, des téléphones sur quelque chose qui est simple, hein, qui se développe depuis pas mal d'années, c'est le QR code. Et le problème de la cartographie. Alors le QR code, pour ceux qui ne voient pas, c'est ces espèces de carrés très étranges. Je vous en montrer un.
Petit code barre.
C'est une forme de code barre. Alors j'ai mis ça où ? Est-ce que je suis en train de développer ça pour des gens ? Et je ne sais plus où j'ai mis ce dossier.
On les voit en bas des affiches souvent.
Ces codes barres carrés avec des formes, des publicités, pour faire des publicités, etc. Et donc c'est de penser que la ville entière est un espace d'écriture. Et donc les gens, ils seront dans des rues, il y aura des codes barres, loin, on va dire des codes barres, des QR codes, et avec leur cellulaire, hop, ils cliqueront et tomberont sur un site qui les inviteront à donner un mot de la rue où ils sont. Si je dis que la ville est un lieu d'écriture, là ce qui nous intéresse, c'est vraiment la ville en tant que lieu de dépôt d'écriture. Hein ? Quand je parle de lieu de dépôt d'écriture, un nom de restaurant est un mot d'écriture. Le nom d'une rue est un mot d'écriture. Une plaque d'immatriculation est un mot d'écriture. Et donc, c'est d'introduire quoi, effectivement, inviter les gens à envoyer ça. Derrière, il y a ce type de matrice. Alors là, c'est moi, mais les contrats, j'ai pas réglé, vous voyez. C'est moi. Ça sera un dispositif, donc, en tout. Donc, c'est pas du vrai ASCII, je le dis, c'est un algorithme que j'ai programmé. Quand je dis que c'est pas du vrai ASCII, c'est-à-dire que je peux vraiment intervenir. Là, il y a 10 000 lettres face à vous. Je peux intervenir sur les 10 000 lettres individuellement, bien évidemment. Et l'installation est faite de deux écrans comme ça, donc de 20 000 lettres en longueur. Et les gens, il y aura deux caméras, ils passeront, ça sera continu. Dans une rue, ils passeront, ils se verront. Mais qu'est-ce qui se produira là-dedans? Tout simplement, et là je vais vous faire simplement une démonstration, je vais faire passer un mot dedans, comme si je l'avais envoyé par le site internet, c'est que les gens, quand ils enverront le mot traversera comme ça, effectivement, l'écran. C'est-à-dire que à longueur de temps, peu à peu, on aura une forme de poésie spatiale de l'espace de la ville qui sera reproduite dans ce fragment de ville qui est filmé et interprété par ce code.
Et à la fois, c'est les passants qui, en passant devant l'écran, animeront cette cartographie poétique de la ville, en fait.
Bon, j'ai tapé un peu n'importe quoi.
Les passants qui animent eux-mêmes l'espace poétique de la ville.
Là, il passe le mot. Vous voyez ?
Bon, c'est un tout petit. Enfin, j'imagine qu'on voit rien du tout avec la lumière.
Là, c'est le carré blanc. Vous voyez le carré blanc passer ?
Ouais, ça, le mot le suit.
Bon, après, il y a des vitesses variables. Donc là, c'est en tapant n'importe quoi. Je vais en introduire un deuxième. Et là, vous en avez un deuxième qui circule. Et donc, peu à peu, les gens pourront effectivement créer cet espace de la nouvelle cartographie, cette cartographie dans un fragment de la ville. Et là aussi, on introduit une nouvelle forme de causalité. Vous voyez, causalité par les cellulaires, nouvel type d'écriture de la ville, c'est-à-dire la cartographie qui est faite à une autre forme de représentation sur un fragment de ville qui est lui-même filmé, etc. Donc on va constituer un fragment de ville de la cartographie générale, des mots généraux, etc. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, quand on parle de poésie action numérique, vous voyez, c'est vraiment introduire ces types de causalité dans l'espace et dans le temps, effectivement, qui pose la question, vous voyez, du lieu de l'écriture. Qu'est-ce que c'est un support d'écriture? Qu'est-ce que c'est une technologie d'écriture, hein? Et c'est vrai que, moi je terminerai là pour quelques questions quand même, qui est 20 minutes de questions, c'est que quand Hortense dit on défend le livre, moi j'ai pu me frictionner avec François Bon, parce que Publi.net, avant Publi.net, eh ben, on était très proches, François Bon et moi, et on avait l'idée, on en parlait beaucoup, hein, par le net, de ça. Et ce qui s'est produit, c'est que quand moi, il a lancé, non, c'est pas moi, là, c'est pas moi, quand il a lancé Publi.net, c'est vrai que j'ai eu des formes de critiques. Bon, j'ai publié un texte tout de suite, Atome Z a été publié sur publi.net dans les premiers, etc. Mais rétrospectivement, je vois ça fait beaucoup de mal au livre. Justement, à la Société des gens de lettres, je suis beaucoup intervenu en tant que créateur numérique, mais pour défendre le livre papier. Et par exemple, je dirige un site qui s'appelle librecritique.com, hein, dont je suis co-directeur. Hein, si vous connaissez pas, bon, allez voir sur la poésie contemporaine. Hein, c'est un site quand même assez vieux maintenant sur la poésie contemporaine. Et c'est tous les jours qu'il y a de la chronique. Hein, même si moi, ça fait 2 ans que j'écris plus énormément dessus. La chose, c'est qu'on défend surtout les livres papier. Et par contre, quand on présente du numérique, on présente vraiment de la création numérique. C'est-à-dire qu'on fait cette distinction épistémique de dire... Ce qui nous intéresse, c'est vraiment, à un moment donné, le format papier. Et comme hier, comment c'est Bernard Faure ? Bernard Faure le disait, il y a eu une réduction de la complexité sonore. Hein. Par exemple, hier, on était en 192 kilobits sur le son que je vous envoyais, la précision du son. Hein. Pas 44.1, mais 192. Donc, vous voyez, c'était 4 fois plus la richesse du son, la densité. De même, vous voyez les livres d'artistes qui sont faits par plein d'éditeurs ou les livres singuliers. Quand vous voyez des livres, moi, je parlais hier de Derrida, mais Derrida a fait un livre de poésie sous la forme d'un triangle que vous ouvrez comme ça, que vous dépliez, etc. Mais c'est unique. Aucun iPad, aucun iPhone n'arrivera à redonner à un moment donné la complexité et la perfection médiumnique d'un livre. Mais comme le livre n'arrivera jamais à donner la complexité et la perfection du numérique en tant que support adapté pour un certain type de création. Et je crois qu'actuellement, l'urgence, c'est de bien faire cette part épistémique. Pourquoi ? Parce que derrière Amazon, Apple, qui sont en train de faire une pression énorme, les gens réduisent les problèmes à quoi ? La littérature numérique, c'est quoi ? C'est de lire des textes classiques sur support numérique, et on est en train de détruire quoi ? La librairie, on est en train de détruire des vrais cercles de lecteurs, on est en train de détruire beaucoup de choses. Et moi, je crois que c'est important à la fois d'être ouvert vraiment au numérique et à la fois de se dire, ben, il y a des technologies un peu parfaites par moment. Hein. Le livre papier a une perfection technologique, etc. Donc voilà, donc on va vous laisser poser des questions maintenant. Hein.